Alors, l'heure est venue pour nous de trancher. Vous dites tout de suite, ça va saigner. On est obligé de laisser tomber un certain nombre d'articles. Et je propose que nous fassions cette computation dans la partie dans laquelle nous sommes entrés, à savoir la christologie. En effet, les articles de la sixième partie, les articles 12 à 24, sont consacrés à la rédemption en Christ. Nous avons vu l'article 12 et les autres articles, les articles 13 à 19, traitent de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Hein, c'est l'élection de Dieu qui a assuré le lien entre la doctrine du péché, c'est-à-dire les articles 9 à 11, et le dogme de l'incarnation, et les articles 13 à 19, qui sont un traité très explicite et assez long sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ, ce que nous appelons en théologie classique la christologie objective. C'est ce que le Christ a fait. Et ensuite, les articles 20 à 24, eux rappellent l'aspect subjectif de la christologie et ils touchent par là à la pneumatologie en ce sens que c'est l'œuvre du Saint-Esprit d'appliquer à nous l'œuvre du Père et l'œuvre du Fils. Évidemment, c'est le lien avec les personnes de la Trinité. Bon, je dis un mot, peut-être je prends l'article 19 alors. Oui, alors nous allons très loin. Alors, il faut lire les autres articles, bien sûr, chez vous. Ils sont simples. Je ne les commente pas. C'est chez eux que je tranche dans cette christologie, parce que ce sont des articles qui, à part l'élément de justification par la foi, sont des articles qui ne font pas problème pour un catholique romain. Et du reste, dans le livre du Moulin, le bouclier de la foi, le jésuite Arnoux, qui est là en scène dans ce livre, pour ses articles, dit « je n'ai rien à dire ». Lorsqu'il s'agit de la double nature du Christ, tout ça, le catholique est d'accord. Alors je prends quand même un peu l'article 19. Nous croyons que c'est par ce moyen, c'est-à-dire Jésus-Christ, la réconciliation gratuite en Jésus-Christ, que nous avons la liberté et le privilège d'invoquer Dieu avec la pleine confiance qu'il se montrera notre Père, car nous n'aurions pas le moindre accès au Père si nous étions introduits auprès de lui par ce médiateur. Pour être exaucé en son nom, il convient de recevoir notre vie de Jésus-Christ comme de notre chef. Mais toujours cette idée du Christ, l'unique nécessaire. L'article 20 est consacré à la justification par la foi. Et je passe, je poursuis jusqu'à la septième partie, c'est-à-dire les articles 25 à 33. Après donc Dieu et sa révélation, après la doctrine de la corruption de l'homme, après l'élection, après la christologie, notamment la justification par la foi, la confession va donner une attention particulière à la doctrine de l'Église. Alors là, je saute l'article 25, je saute encore l'article 26. Je me permettrai même de sauter l'article 27. Évidemment, j'en profite pour sauter l'article 28. Je vais carrément dans l'article 21. Là, j'arrête, parce qu'évidemment, quand on coupe une barre avec des ciseaux, on risque de tout couper. Il faut quand même qu'on continue de commenter cette confession. Alors, nous voici dans l'article 29, qui est consacré au ministère. Si je retrouvais mes papiers, ça serait encore plus sympa. Grâce à l'intervention, bien entendu, il ne faut pas enregistrer l'un de Saint-Barthélemy, on peut tomber, trouver le papier, peut-être je l'ai. Alors, nous reprenons. Hein. Il faut couper un peu, il ne faut pas tirer l'intégralité. Voilà. Alors, nous en sommes, page 54, article 29. Quant à l'Église véritable, nous croyons qu'elle doit être gouvernée selon l'ordre établi par notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir qu'il y ait des pasteurs, des surveillants et des diacres, afin que la pureté de la doctrine soit maintenue, que les vices y soient corrigés et réprimés, que les pauvres et tous les affligés soient secourus dans leurs besoins, que les assemblées se tiennent au nom de Dieu, et que les adultes y soient édifiés, de même que les enfants. Calvin a organisé l'Église de Genève. Et Calvin a eu un sens tout à fait peu banal, voire même extraordinaire, de l'organisation. Et devant cette Église qui accueillait le message de l'Évangile, il éprouve besoin de la doter de structure. Il ne fait pas entièrement ici une œuvre originale. Il va s'inspirer de l'équivalent. Voilà. Il va s'inspirer évidemment de M. Bucer, le réformateur de Strasbourg. Il a gardé cela de son voyage à Strasbourg. Il revient avec cette doctrine des ministères. Et il va mettre au point, si je puis exprimer ainsi, une doctrine que l'on appelle la doctrine des quatre ministères, tel que Calvin conçoit dans ses fameuses ordonnances ecclésiastiques, les ordonnances ecclésiastiques de 1541, rédigées au lendemain de son séjour à Strasbourg. Alva, dans les ordonnances ecclésiastiques de 1541, s'inspirant de Bucer, va affirmer que l'Église visible comporte quatre ministères. Ces ministères, les voici: les pasteurs, les docteurs, les anciens et les diacres. Le ministère du pasteur, il prêche l'Évangile, il administre les sacrements. Les pasteurs ont pour charge d'annoncer la parole de Dieu pour, disent les ordonnances de 1541, admonester, endoctriner et reprendre en public comme en particulier. Administrer les sacrements et faire les corrections fraternelles avec les anciens. Ce pasteur, il a la charge de la paroisse, et puis après ce ministère du pasteur, vient le ministère du docteur, le docteur qui enseigne la bonne doctrine. Les docteurs ont pour office d'enseigner les fidèles en saine doctrine. Et ici, vous devriez hurler, puisque dans l'article 29, vous pouvez chercher le ministère du docteur, très curieusement, vous avez l'occasion de revenir plus loin, et le docteur n'est plus là. Il y a une liberté de la confession de La Rochelle, il devrait y avoir pasteur, docteur, surveillant et diacre, et le docteur n'y est pas. J'attire votre attention sur ce point, alors que le ministère du docteur est dans les ordonnances de 1541, et ce ministère du docteur est dans toute l'œuvre de Calvin. Le ministère de l'ancien, qui est chargé de veiller sur le respect de la discipline, les anciens ont pour mission de prendre garde, disent les ordonnances, de prendre garde sur la vie d'un chacun et d'admonester aimablement ceux qui verront faillir et mener vie désordonnée. Et enfin, je vais reprendre tous ces points, il y a le ministère du diacre, essentiellement l'assistance aux pauvres et aux malades. Le Tita, dans le chapitre 3 et du livre 4 de l'institution de la religion chrétienne, sous-titré « Des docteurs et ministres de l'Église, de leur élection et office », dans le chapitre 3 du livre 4 de l'institution de la religion chrétienne, Calvin distingue dans Éphésiens 4, 11, trois ministères transitoires réservés aux origines chrétiennes. Ceux d'apôtres, de prophètes et d'évangélistes. trois ministères transitoires, réservés aux origines chrétiennes, ceux d'apôtres, de prophètes et d'évangélistes. Et deux ministères permanents ou ordinaires, à savoir ceux de docteur et de pasteur. À ces deux ministères, desquels je cite Calvin, l'Église ne se peut jamais passer, c'est-à-dire les deux ministères de docteur et de pasteur, il ajoute, en s'inspirant de Romains 12, versets 7 à 8, et de 1 Corinthiens 12, verset 28, deux offices, il ajoute deux offices qui, je cite, durent à perpétuité, l'un de gouvernement, il s'agit de l'office de l'ancien, l'autre de sollicitude, sollicitude envers les pauvres, il s'agit de l'office du diacre. Alors, d'abord, les ministères transitoires. Ces ministères transitoires d'apôtres, de prophètes et d'évangélistes, je vais reprendre tout ça, sont les offices suscités par grâce au commencement. D'abord, le ministère d'apôtre. Alpha, le ministère d'apôtre. L'apostolat présente trois caractères. Aleph, Beth, Gimel. D'abord, Aleph. Il est lié à une situation unique. Il est lié à une situation unique qui était la proclamation de l'Évangile, c'est-à-dire la diffusion de la bonne nouvelle à la première génération. Il y a trace de cela dans le 25e sermon sur l'Épître aux Éphésiens. Bête, l'apostolat, second caractère, est limité dans le temps. Le troisième sermon sur Tite nous apprend que ce ministère était temporaire, c'est-à-dire destiné aux origines. Troisième caractéristique du ministère d'apôtre, Gimel, il n'est pas lié à un lieu, à un pays déterminé. Au contraire, son champ d'action, c'est le monde. Et ce caractère d'universalité, ministère d'apôtre, conduit cet office à une sorte de nomadisme, à l'opposé de la sédentarité qui sera la caractéristique du ministère pastoral. Le pasteur, c'est un sédentaire, il est lié à un lieu. Il est normalement un clocher avec une cloche, et sous la cloche, et le clocher, il y a un pasteur qui campe là. Et même il construit là, enfin il est là dans un presbytère, c'est-à-dire au fond, il est sédentaire. Tandis que l'apôtre, lui, son apostolat, c'est le monde. Voilà les trois caractères que je vois chez Calvin. Aleph, situation unique, la diffusion de la bonne nouvelle à la première génération, Beth, limitée dans le temps, temporaire, Gimel, il n'est pas lié à un lieu. Comme vous avez mis Alpha, le ministère d'apôtre, veuillez mettre parmi ces ministères transitoires, Beta, le ministère d'évangéliste. Beta, le ministère d'évangéliste. Et d'ailleurs, le réformateur l'assimile souvent à celui de l'apôtre, comme dans le 27e sermon sur la deuxième épître à Timothée. Le ministère d'évangéliste, Beta, Gamma, le ministère du prophète. Le ministère du prophète. C'est le ministère de celui, je cite l'institution de la religion chrétienne, 4, 8, 16, c'est le ministère de celui ayant singulière révélation par-dessus les autres. Et le réformateur, Calvin, essaie, en plus d'un endroit, de récupérer de la réforme, le ministère du prophète. Comme par exemple dans le 39e sermon sur la première épître à Timothée. Aujourd'hui, Dieu ne fait point cette grâce aux papistes de leur envoyer des prophètes. Il les laisse là en leur perdition. Aujourd'hui, Dieu ne fait point cette grâce aux papistes de leur envoyer des prophètes. Il les laisse là en leur perdition. Mais quels sont ces prophètes? Eh bien, ce sont les réformateurs. Il y aurait là une enquête à mener. Plus facile à faire chez Luther qui a dit « Je suis le prophète de la Germanie », plus difficile à mener chez Calvin, qui est très sobre lorsqu'il s'agit de lui-même. Mais c'est évident, j'aurai peut-être l'occasion encore de revenir, que c'est la position de la réforme du XVIe siècle. Parce qu'après tout, Calvin, qui est-il? Là, techniquement, il n'est pas grand-chose. Il est lecteur. Où est l'ordination de Calvin? On la cherche un combat tout la part. Il n'y en a pas. En quoi Calvin correspond-il à cet article 29? En rien. Il n'est ni pasteur, ni docteur, ni ancien, ni diacre. Alors, c'est qu'au fond, il est là, on va le voir plus loin, comme un ministre extraordinaire. Pas comme un ministre ordinaire. Voilà, alors ça c'est ce que je comptais vous dire sur ces trois ministères transitoires d'apôtres, de prophètes et d'évangélistes réservé aux origines chrétiennes. Alors, ceci était le petit A. Petit B maintenant, j'en viens au ministère permanent, c'est-à-dire aux quatre ministères dont j'ai parlé en commençant. Et, premièrement, je m'en vais vous entretenir du ministère de pasteur. Premièrement, dans les quatre ministères, le ministère de pasteur. Pasteur est synonyme des termes suivants, évêque ou ministre. Lorsqu'au XVIe siècle, on veut faire un débat, on met face à un pasteur, non pas un curé, c'est rien du tout un curé, mais on met un évêque face à un pasteur. Parce que l'on considère que le pasteur, c'est l'évêque. Il y aurait beaucoup à revenir là-dessus. J'aurai l'occasion de le faire. Calvin déclare, quantité des pasteurs que l'Écriture nomme aucune fois, ça veut dire d'autres fois, évêque et ministre, leur office est d'annoncer la parole de Dieu pour endoctriner, admonester, exhorter et reprendre, tant en public comme en particulier, administrer les sacrements et faire les corrections fraternelles avec les anciens. Trois attributions appartiennent donc au ministère du pasteur. Première attribution, c'est bien évidemment la prédication. La prédication de la parole de Dieu. La deuxième attribution sera l'administration des sacrements. Mais aussi, troisième chose, l'exercice de la discipline, c'est-à-dire que le pasteur collabore avec les anciens à ce que nous avons appelé la correction fraternelle. Je vais reprendre ces trois attributions dans ce cours qui se veut didactique aujourd'hui. Première attribution, l'annonce de la parole. Le pasteur joue un rôle de tout premier plan. Et pourquoi jouit-il d'une telle prépondérance? Essentiellement, parce qu'il est le ministre de la parole. Voilà pourquoi le pasteur est si important. Il est le ministre de la parole. La prédication constitue dans la pensée, dans la persuasion de la réforme du XVIe siècle, constitue la fonction principale du pasteur. Ce n'est pas du tout comme aujourd'hui, où la prédication c'est ce qu'on fait en rave dans ce qui reste de la fin d'après-midi du samedi soir. C'est comme cela dans la vie concrète, me semble-t-il, d'un pasteur aujourd'hui. La prédication est ramenée dans ce qui se passe la veille au soir, le samedi la veille au soir. Et vous avez même des pasteurs coquets qui se flattent. Par exemple, j'ai entendu un jour un pasteur dire, lorsque je traversais la sacristie, eh bien, je ne savais pas sur quoi j'allais prêcher. Et alors, au lieu de s'humilier et de ramper la tête dans le bidet, eh bien, le pasteur se glorifie. Exemple encore, pas cette année, mais il y a quelques années, il y a un stagiaire qui m'a raconté, revenant des fameux stages du février, qu'il était auprès d'un grand pasteur, et ce grand pasteur lui a dit, le samedi soir, après un bon repas, d'ailleurs très bien arrosé, le pasteur lui a dit, sur quoi tu souhaiterais que je prêche demain. L'étudiant était stupéfait, et puis il a fini par donner un texte, etc. Et le pasteur s'est mis à dire, bon, ben voilà, je ne prends aucun point, etc. Voilà un pasteur soigneux qui, quand même, entre minuit et demi, pense aux trois points possibles d'une éventuelle communication stimulée par le petit stagiaire. Voilà. Mais ceci est une hérésie blasphématoire, à raison ou à tort, par rapport à ce que fait un pasteur au XVIe siècle. Un pasteur au XVIe siècle, il prêche. Et il prépare toute la semaine sa ou ses prédications à fond. En qualité de prédicateur de l'Évangile, le pasteur, et je cite des expressions fortes de Calvin, il est le coadjuteur, il est l'ambassadeur, il est, c'est des qualificatifs de M. Calvin, il est l'ange, ce qui plairait à M. Bru, évidemment, il est l'organe. Je ne dis pas qui s'appellerait ici, et il est finalement, voilà ce qu'est le prédicateur, il est la bouche de Dieu. Le prédicateur est la bouche de Dieu. Et c'est ces expressions qu'on serait tenté de prendre tout à fait au sens figuré, de se mettre les deux doigts dans le nez avec naïveté et se dire, bon, ben, voilà, ce sont des images, c'est des gentilles images. Du tout. Il faut prendre ces expressions de la manière la plus forte et de la manière la plus réaliste. Le pasteur, il est ambassadeur. Il est lieutenant du Christ. Voilà, c'est pas un pasteur au XVIe siècle, c'est pas rien. C'est pas comme aujourd'hui, ces pasteurs qu'on renvoie pour un pasteur, voilà, on apprend dans toutes les déterminations qu'un pasteur, ben, un beau jour, un matin, on lui dit, bon, ben, ce soir, je ne serai plus pasteur, on fait des choses comme ça. Et, non, on n'a pas ça au CDI, c'est quand même une conscience du ministère. Hein. Le pasteur est ambassadeur. L'autorité lui vient de la parole de Dieu. Et il est même ministre plénipotentiaire, c'est-à-dire le ministre qui a plein pouvoir. Et à ce titre, il emploie la première personne du pluriel, le pasteur du XVIe siècle. Il dit « nous ». Il ne dit pas comme les pasteurs d'aujourd'hui « je ». À mon avis, je pense, mais je ne veux pas me mettre en avant, qu'on pourrait soutenir plutôt cette hypothèse, etc. C'est ça qu'on entend dans la chaire. Et le pasteur du VIe siècle ne donne pas un petit avis personnel particulier. Ce n'est pas non plus le pasteur qui raconte sa vie. L'autre jour, j'ai rencontré une dame qui m'a dit que... Puis tu vas pas voir, tu finis par savoir qui est la dame, etc. Qui raconte des anecdotes, qui meuble finalement 20 minutes d'un sermon poussif. Hein. Au XVIe siècle, le prédicateur dit « nous ». Et son autorité s'explique parce qu'il y a une identification du pasteur avec celui qui l'envoie. C'est carrément le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés qui consiste à présenter par l'Évangile le Christ aux hommes. Pas une petite prédication sociologique, hein, où on vous redit en moins bien... Les actualités télévisées de la semaine, etc., où on vous raconte comment faire, je ne sais pas, telle technique, telle science, etc., ou pas du tout, on s'intéresse, le pasteur du VIe siècle s'intéresse à annoncer le Christ aux hommes. Et le pasteur, il est, je crois l'avoir dit déjà, hein, il est verbi divini ministère. Hein, je vous ai dit que les pasteurs du XVIIe siècle, signés après leur nom BDM. Hein? Verbi Divini Minister. Il est ministre du Verbe de Dieu. Il soumet à la parole les grands et les petits. Les grands de taille et les petits de taille, et puis les grands d'âge et les petits d'âge. Il édifie la maison du Christ. Sous expression de Calvin, il démolit le règne de Satan. Voilà le passage. Il est le chien qui aboie et défend le troupeau, au lieu de le laisser au premier moderniste qui passe, pas aux collègues modernistes, aux voisins. T'as pas 100 balles, tu veux pas venir prêcher chez moi, etc. Ça m'économisera une prédication. Non, on a une conscience du troupeau aux édifices. Alors, ce ministère du pasteur est un ministère indispensable. L'Église ne saurait exister sans ce ministère. Il appartient à l'être même de l'Église. Dieu se fait présent en son Église par ses ministères. Le ministère a une valeur instrumentale. Il n'y a aucun caractère de nécessité du côté de Dieu. Tu n'as pas besoin. C'est pas nécessaire pour Dieu. Mais c'est nécessaire pour nous. À cause de l'amitié de Dieu pour les hommes. Pour preuve de son amour pour les hommes, Dieu leur donne des ambassadeurs, des représentants de sa personne. Et ces ministres sont les représentants de Dieu. Ils rendent Dieu présent. Le prédicateur est la bouche même de Dieu. 14e sermon sur Tite. Je ne suis point ici comme en mon nom, mais quand je parle, c'est au nom de Dieu. Aussi, 12e sermon sur 2 Timothée. Je suis comme sa bouche. Dans la personne du pasteur, ministre de la parole de Dieu, se manifeste la présence du Christ dans l'attente de la parousie. Et le sermon est une véritable théophanie. C'est-à-dire, c'est vraiment une manifestation de Dieu, hein ? C'est ça une théophanie. C'est une apparition, une manifestation de Dieu. La prédication est une cérémonie sacrée. Elle est le lieu de cette manifestation de Dieu. Et comme vous l'avez sans doute peut-être remarqué, le sacré est invoqué, non pas comme on s'y attendrait, lors de la Sainte Cène, ce qui serait le cas dans l'Église catholique romaine. Mais le sacré est invoqué pour la prédication théophanie. Quand le ministre ouvre l'Écriture, après avoir invoqué le Saint Nom de Dieu, c'est Dieu qui parle. C'est Jésus-Christ, dit Calvin, qui vient et c'est lui qui prêche. La prédication de l'Évangile, déclare-t-il dans le 16e sermon sur le 2e livre de Samuel, la prédication de l'Évangile, c'est une descente que Dieu fait pour nous venir chercher. Quand nous avons la parole de Dieu qui nous est prêchée, Dieu parle d'une façon commune et ordinaire avec nous. Quand l'Évangile est prêché, autre citation, c'est autant comme si Dieu descendait à nous Et encore, la prédication est la véritable descente de Dieu parmi les hommes pour nous y venir chercher. Et les auditeurs, en face du prédicateur, deviennent les temples de Dieu. Et c'est ça, le sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, c'est en fait que les auditeurs de la parole de Dieu deviennent temples de Dieu. Et étant le temple de Dieu, ils peuvent le prier, s'offrir en offrande vivante et sainte. Cette offrande que le croyant fait de sa vie, cette prière incessante, fait du fidèle le prêtre de la nouvelle alliance. Chaque baptisé en théologie réformée est prêtre. En ce sens qu'il peut s'adresser directement à son Seigneur. Chaque baptisé est appelé de faire de sa vie un sacrifice agréable à Dieu. Institution chrétienne 4-5. Il n'y a pas de distinction entre laïc et clair. Comme dans le Moyen Âge, il n'y a qu'un peuple de croyants. Il n'y a qu'un peuple de prêtres. Attention ici à la gaffe. Par cette notion de sacerdoce universel, à laquelle certains dans nos églises aujourd'hui voudraient donner le sens de pastorat collectif, ce qui est une erreur grossière, on voudrait s'autoriser d'une théologie qui n'a rien à voir avec la pensée des réformateurs. Quand on vous dit, en vertu de la pensée de la réforme, tout un chacun est aujourd'hui pasteur, c'est une erreur par rapport à la théologie de la réforme. Le terme de sacerdoce universel, d'ailleurs inventé par les théologiens, ne se trouve nulle part dans l'œuvre de Calvin. On ne saurait donc faire dire à Calvin que le ministère est le propre de tous les fidèles. Tous les fidèles sont prêtres, mais tous ne sont pas ministres. Et un texte de Bullinger, successeur de Zwingli à Zurich, résume très bien la situation. C'est au fond le texte de la confession hérétique postérieure. Voici un texte très clair, trop clair pour notre temps. Les apôtres du Christ appellent tous ceux qui croient en Jésus-Christ prêtres, non pour raison du ministère, mais à cause que tout fidèle étant fait par Christ, rois, prêtres ou sacrificateurs peuvent aussi offrir à Dieu sacrifices spirituels. Ce sont donc choses grandement diverses et différentes que la prêtrise et le ministère. Car la prêtrise, comme nous venons de dire, est commune à tout chrétien, mais non pas le ministère. Voilà ce que dit la tradition hérétique postérieure. La prêtrise, comme nous venons de dire, est commune à tout chrétien, mais non pas le ministère. Et par conséquent, nous n'avons pas ôté le ministère de l'Église quand nous avons rejeté de l'Église de Christ la prêtrise telle qu'elle est en Église romaine. C'est très clair au sein de ce peuple de croyants qui sont tous prêtres. Il y a les ministères appelés par Dieu, ceux, dit Calvin, qu'il commet sur son Église pour être pasteur. Au colloque de Poissy, fameux colloque de Poissy, POI2SY, ce dernier grand essai de réconciliation pour essayer de réunir ceux qui sont divisés sur la question de la foi. Au colloque de Poissy, Théodore de Bèze, successeur de Calvin à Genève, futur successeur de Calvin à Genève, Théodore de Bèze, interpellé par les catholiques romains qui reprochent aux réformés d'avoir aboli le ministère, Théodore de Bèze défend la spécificité du ministère pastoral. Mais, dira quelqu'un, est-il dit pourtant qu'il soit permis à chacun d'annoncer la doctrine et d'administrer les sacrements? Non, certes, car il faut que toute chose se fasse par bon ordre en la maison de Dieu, comme dit l'apôtre. Qui sont donc les vrais pasteurs? Ceux qui sont légitimement appelés. Il reste donc de savoir quelle est la vocation légitime et qu'on entende ce point. Nous disons qu'il y a une forme de vocation ordinaire, est ordinaire celle en laquelle est gardé l'ordre que Dieu a établi en l'Église. En cet ordre, il y a premièrement examen de la doctrine et de la vie, puis après l'élection légitime et finalement l'imposition des mains. Ça veut dire, messieurs et mesdames, qu'on se méprend lorsque, au nom du sacerdoce universel, on cherche à introduire un ministère collectif, lorsqu'on cherche à introduire un pastorat collectif. Le sacerdoce universel n'a jamais signifié, ni pour Luther, ni pour Calvin, ni pour les autres réformateurs, que chaque fidèle était investi du pouvoir d'annoncer la parole de Dieu et d'administrer les sacrements. Calvin affirme, je cite, « Il y a mandement express de Jésus-Christ pour ordonner spécialement certains ministres. Il y a mandement express de Jésus-Christ pour ordonner spécialement certains ministres. Le ministère a donc son fondement dans la charge apostolique du Christ. Par les ministères, Dieu a voulu nous exercer à l'humilité. Si Dieu se manifestait dans sa clarté infinie, il serait alors évident qu'on le crée. Mais Dieu a choisi de parler, je cite, par un homme émergé de la poussière. Écouter un tel homme parler au nom de Dieu, c'est faire preuve d'humilité et c'est rendre honneur à Dieu qui atteste par la prédication qu'il n'a pas oublié les hommes. Dieu a voulu aussi entretenir entre les croyants la charité fraternelle avec l'humilité. Dieu n'a pas voulu des chrétiens autonomes. Chacun a besoin de l'autre. Le ministère n'abolit pas la distance qui sépare le Créateur de la créature. Calvin est soucieux de préserver la transcendance de Dieu. c'est Dieu qui fait au fond comme des concessions à l'humanité. En raison de notre faiblesse, il se met à notre portée, il se fait petit, nous parle d'un langage intelligible, et Dieu emploie le langage que l'homme peut comprendre. Et c'est là le fameux principe d'accommodation notion que le réformateur a hérité d'Erasme. Notion d'accommodation que le réformateur a hérité d'Erasme. Dieu s'accommode, parle d'une façon familière au populaire, dit Calvin dans son commentaire au psaume. Comme la nourrice qui bégaye avec les nouveau-nés, comme le père de famille qui taille la miche de pain en proportion de la capacité d'accueil de chacun, de même, de la même manière, Dieu donne à chacun ce dont il a besoin. Et la prédication est d'autrefois comparée à une demande en mariage ou à la ratification du mariage entre Dieu et le croyant. Comme si le Christ nous demandait en mariage pour que nous lui soyons plus prochains qu'une femme à son mari. Et la conséquence de tout cela, c'est qu'une prédication infidèle à l'Évangile sera assimilée à un adultère. Eh bien, je vous donnerai au prochain cours, commentant toujours cette partie de l'ecclésiologie du réformateur et de la prédication du ministère du pasteur, je vous donnerai au prochain cours un petit traité d'homilétique. Comment prêchait-on au XVIe siècle?